Chers frères et sœurs, nous vous adressons nos salutations fraternelles à ceux qui ne sont pas encore dans la foi en Christ notre Seigneur. Nous disons bonsoir. Cette période en temps habituel est propice à la préparation pour la chasse aux œufs de Pâques dans 2 jours. Une tradition qui, comme beaucoup d'autres, n'en conserve plus que le geste. Cette tradition fait référence à la vie dont l'œuf est le symbole. Cette vie qui éclot à travers la nature qui fleurit, la faune qui se fait plus présente avec l'arrivée du printemps était célébrée par les Égyptiens, les Perses et les Romains. Pour le monde chrétien, c'est aussi l'occasion de célébrer la vie, le retour à la vie, la vraie vie, celle qui se trouve en Christ. La parole incarnée. En effet, la Bible déclare au sujet de la parole, je cite, En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Fin de citation. Mais que s'est-il passé pour que l'homme nouveau ne soit pas né de la volonté de la nature ou d'un mari, mais qu'il soit né de Dieu? Nous comprendrons à travers les différentes lectures le plan de Dieu pour faire jaillir d'une génération vouée à la mort, une génération d'hommes et de femmes nouveaux, nés de Dieu et pour sa gloire. C'est Jésus-Christ, la lumière des êtres humains qui accepte d'assumer de sauver l'homme. Ces événements sont des faits historiques qui ont eu lieu il y a plus de 2000 ans, autour de la fête de Pâques, célébrée par le peuple juif. Je vous propose de prendre vos Bibles et de suivre avec moi la lecture dans l'Évangile selon Marc au chapitre 14, et nous lirons dans un premier temps les versets 12 à 26. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent, Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque? Il envoya deux de ses disciples et leur dit, Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, Est-ce moi? Il leur répondit, C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, Prenez. Mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Je vous propose de chanter au cantique 135 dans J'aime l'Éternel, la vérité, le chemin, la vie. Nous poursuivons notre lecture en Marc au chapitre 14 et nous sommes arrivés au verset 27. Nous lirons jusqu'au verset 24 du chapitre 15. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors ?» Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe, « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, « Maître !» Et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Ils amenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns s'élevèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant, « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ?» Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, « Devine !» Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant, « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents, « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen. Tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Les chefs des prêtres portaient alors contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne réponds-tu rien? Vois tous les témoignages qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'ils avaient l'habitude, ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? En effet, ils savaient que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Quel mal a-t-il fait? Leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils y rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Je vous propose de chanter au cantique 642, J'aime l'Éternel, pardon Seigneur, pardon. Chers amis, poursuivons notre lecture au chapitre 15 de l'Évangile selon Marc. Nous sommes parvenus au verset 25 et nous lirons jusqu'au verset 47. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant: et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Le chef des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient: il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient: voici qu'il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant: laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le jeune, et de Josès, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Josès, regardaient où l'on déposait Jésus. Je vous propose de chanter le cantique Par la croix de Fiona et Adrian Price. Puis nous écoutons la prédication apportée par Paul Évry.
Du Dieu trois fois saint. Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Vivre et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout.
Nous allons nous concentrer maintenant sur deux versets particuliers, deux paroles de Jésus qui sont des prières adressées à Dieu lorsqu'il était à la croix. La croix est ce moment vraiment ahurissant, un moment bouleversant, un des moments les plus remarquables de l'histoire. L'autre moment, évidemment, était 2 jours plus tard, le dimanche. Chaque année, à Vendredi Saint, nous nous penchons sur tel aspect de la mort de Jésus, son procès, sa trahison, son identité, ses souffrances. Et je ne veux pas dire les mêmes choses chaque année. Et j'ai pensé donc à ces deux versets qui font partie du récit et qui sont riches. Une des histoires qui est ressortie dans les médias récemment est celle d'un médecin qui est décédé après avoir pris soin de certains malades à l'hôpital. Il y en a eu quelques-uns, n'est-ce pas ? Mais un en particulier que j'ai noté, c'est Dr Alpha Saadou, un médecin retraité qui était retourné pour traiter les autres. Et il est mort lui-même du coronavirus. C'est une histoire tragique qui montre la fragilité de tout homme. Mais en même temps, nous admirons quelqu'un qui a donné sa vie pour sauver d'autres personnes. Et en cette période de Pâques, nous les chrétiens, nous réfléchissons à quelqu'un qui a donné sa vie pour nous sauver. C'est ce que nous allons considérer à travers deux versets. Ce sera un petit peu comme voir des tableaux, deux tableaux dans un musée. Je vous invite ce soir à les observer, à les considérer, à contempler Christ à travers ces versets. Deux paroles qu'il a dites à la croix. Évidemment, chaque parole a son importance, chaque détail par rapport à sa mort est importante. Mais nous allons considérer juste ces deux phrases. Tout d'abord, Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'était au moment où ils le crucifièrent, là, à l'endroit appelé le crâne, à Golgotha, cette colline à l'extérieur de Jérusalem. Et Jésus prit cette prière. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on peut considérer que c'est une affirmation vraie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de l'énormité de ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent qu'ils mettent à mort un malfaiteur, un blasphémateur ou quelqu'un qui, en réclamant la royauté, causerait une révolte politique en Israël. Ils se doutaient peut-être, certains parmi eux, que c'était un homme innocent, et dans ce cas, ils seraient coupables d'injustice, mettre à mort un homme qui ne serait qu'un rabbin bienveillant. C'est quand même grave en soi, cette injustice. Mais ce qu'ils font, les assassins de Jésus, est beaucoup plus grave que cela. Souvenez-vous que ce n'est pas que les soldats qui sont dans le coup, c'est un complot de tous. Les dirigeants religieux, le peuple, les chefs politiques et les militaires. L'évangile de Luc souligne comment les différents groupes se moquent de Jésus. Au chapitre 22, verset 63, les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui. Au chapitre 23, verset 35, les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus. Verset 36, les soldats se moquaient de Jésus avec la foule, avec les passants. Ils sont tous impliqués. De sorte que Simon-Pierre a pu dire à une foule à la Pentecôte, « Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Ils étaient tous impliqués quelque part. Les soldats étaient instrumentalisés sous les ordres de leur gouverneur et sous l'influence de la foule et des dirigeants. Et ce complot généralisé concerne quelqu'un qui est plus qu'un innocent ou un bon enseignant. Il est le Fils de Dieu. Ils ne se rendent pas compte, mais ils sont en train d'essayer de tuer l'immortel. Ils essayent de supprimer la vérité. Les créatures essayent de se débarrasser de leur créateur. C'est évidemment bien plus grave que ce qu'ils savent. Cette sagesse de Dieu, dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, cette sagesse de Dieu, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. En fait, on se rend compte qu'il ne savait pas ce qu'il devait savoir. Il n'était pas sage. Et il n'était pas informé pleinement. Et c'est à cause de cela qu'ils ont cru bon de faire l'inimaginable. Jésus donc décrit cette réalité. Lui seul se rendait compte de ce qu'ils étaient réellement en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est aussi une déclaration d'amour. Dieu aime les gens. Et c'est surprenant parce que nous ne sommes pas du tout comme lui. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions ses ennemis. Et Jésus faisait tout avec amour. Et Jésus est en train d'exprimer de l'amour pour ses ennemis en disant « ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est étrange de lire cela parce que Jésus n'a jamais minimisé le péché, c'était toujours péché pour lui. Il a même clarifié que le péché est plus grave que nous le pensons d'habitude. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, vous apercevrez qu'il exige un plus grand niveau de sainteté et qu'il nomme comme péché les choses que nous tolérons très facilement. Il me semble que lorsque Jésus dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont en train de plaider pour leur innocence, ou au moins pour leur responsabilité diminuée. Être ignorant de la loi n'est pas vraiment une excuse, on ne peut pas vraiment dire cela aux policiers qu'on ne savait pas ce que la loi exigeait. Mais si nous sommes parents ou amis de quelqu'un et qu'il nous explique qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, et que ce qu'il faisait était l'opposé de ce que nous voulions, mais il ne s'en rendait pas compte. Nous pourrions en quelque sorte trouver plus facile d'oublier l'offense, de passer au-dessus. Il me semble que c'est ce genre d'attitude-là que Jésus est en train de favoriser. Il y a un parallèle avec la mort d'Étienne, le martyr chrétien qui, en tant que jeune fougueux mais innocent, il prie au moment où ses ennemis prennent des pierres pour le lapider, que Dieu ne compte pas les péchés contre eux, ne les charge pas de ce péché, pria-t-il au Seigneur en Actes 7, verset 60. Voilà également un exemple d'amour pour ses ennemis, n'est-ce pas? D'aimer ceux qui le persécutaient jusqu'à la mort. Et c'est ainsi que Jésus a réagi. Dieu, le juge parfait, doit punir le mal, mais il est aussi l'amour parfait, qui veut aimer et accueillir le pécheur. Reconnaître qu'ils ne savent pas ce qu'ils font pourrait être une façon de les aimer. L'apôtre Paul, un écrivain de la Bible qui est passé d'être un opposant de Jésus à un prédicateur de Christ, a écrit ceci. Moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. J'agissais par ignorance. Le plus grand crime imaginable, c'est de persécuter Jésus avec violence, de le tuer. Mais au lieu de les accuser comme les plus coupables, les plus exécrables, Jésus les présente presque d'une manière favorable. En tout cas, il leur attribue la meilleure motivation. Il ne cherche pas à les noircir. Et puis troisièmement, nous voyons à travers ce verset une prière bienveillante. C'est une prière bienveillante. Nous avons vu que cette expression « ils ne savent pas ce qu'ils font » est une déclaration vraie et que Jésus exprime son amour pour eux plutôt que la haine. Et l'autre aspect saillant de cette phrase est que c'est une prière. Il dit « Père, pardonne-leur. » Et il pourrait prier en toute légitimité « Père, n'oublie pas ce qu'ils ont fait. » Néhémie, un homme saint du passé d'Israël, prie ce genre de prière. Ne pardonne pas leurs fautes. Ne croyons jamais que le pardon est naturel. Il est surnaturel. Il y a quelque chose d'étonnant dans cette façon de prier. Cette grâce et la bienveillance, sont celles de Dieu, qui dépassent tout ce que nous pouvons concevoir en tant qu'être humain. Si Jésus a prié cette prière et les premiers manuscrits ne portent pas tous cette information, c'est cohérent avec sa personne et sa mission. Il a voulu faire grâce aux gens. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il a voulu, et particulièrement par sa mort à la croix, répandre la faveur de Dieu aux hommes et aux femmes. Il semblerait que Dieu le Père ait accepté cette prière. Jésus meurt et la terre tremble, mais les auteurs de son assassinat ne sont pas détruits. La ville dormit ce soir-là en paix, même si la tristesse était présente. D'autres ont remarqué que le verset 31 parle de bois vert et qui deviendra du bois sec, et que le jugement de Dieu s'abat sur la ville après un délai, 40 ans plus tard. En l'an 70, Jérusalem était envahie et détruite. Dieu aurait-il fait grâce pendant 40 ans en réponse à cette prière de Jésus? On ne peut pas en être certain, mais Jésus a voulu que ses contemporains, qui l'ont fait souffrir, ne soient pas jugés comme plus coupables que les autres générations. L'autre verset se trouve plus loin. Avançons maintenant et regardons le deuxième tableau qui se trouve en Luc 23, mais au verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après avoir dit ces paroles, il expira. Deuxième prière est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Au dernier moment de la vie de Jésus, il dit Père, il reconnaît toujours son état de fils de Dieu. Nous avons bien sûr l'habitude de prier Dieu comme notre Père, mais c'est parce que nous avons un nouveau statut d'enfant de Dieu que Christ nous a accordé. Il était le seul à appeler Dieu son Père. On ne voit pas David appeler Dieu son Père, ni Moïse, ni Abraham. Seigneur, mon Dieu, serait une formule convenable pour qu'un homme s'adresse à Dieu. Mais ici, Dieu parle à Dieu. Le Fils parle au Père. Et il tourne cela en prière, il remet sa confiance en Dieu, il exprime à nouveau que Dieu est là et l'écoute. Et qu'est-ce qu'il fait à travers cette prière? Il remet son esprit à Dieu. Cela signifie qu'il est humain. Il cite le psaume 31 qui décrit un homme souffrant, mais un homme qui se confie en Dieu. Car quand il rend son esprit à Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit que le Fils rend ici à son Père, c'est son esprit humain, comme nous en avons un également, vous et moi, une existence personnelle et intérieure qu'il rend à Dieu. Après avoir dit ces paroles, il expira. C'est un homme en train de mourir. À la fin de notre vie, nous dit la Bible, l'esprit quitte le corps humain. Les deux ont de la valeur, bien sûr, l'esprit et le corps, et Jésus avait les deux, un esprit humain et un corps humain, le corps n'est pas le tout, et rendit l'esprit à Dieu. Et donc Jésus mourut dans son humanité. Pourtant, il était aussi le Fils bien-aimé du Père. Et en lisant ce verset, nous avons un autre aperçu aussi de l'œuvre de Jésus. Il était clairement un homme innocent. La Bible dit en Hébreux 10, verset 31, « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Pourtant, Jésus remet son esprit entre les mains du Dieu vivant en toute sérénité. Pourquoi? Écoutez bien, toute la différence est si nous sommes coupables ou justes lorsque nous arrivons à Dieu. Un homme coupable, sans sacrifice pour ses péchés, qui rencontre son juge, a raison d'être terrifié, n'est-ce pas? Il y a des choses qui nous font peur dans ce monde, mais on devrait vraiment avoir peur de cela. Mais un homme juste, une personne justifiée, graciée, pardonnée, n'a pas peur de rencontrer son Dieu. À la mort, son esprit rencontre le Seigneur et est dans la joie de son maître. Donc, comment Jésus mourut-il? Dans quel état? Anéanti physiquement, mais spirituellement, il était intègre, il était juste, saint. Quelque chose s'est produit, et ils ont crucifié le Seigneur de gloire, il a prié pour leur pardon, mais plus que cela, il s'était chargé de nos fautes. Le verset 44 parle des ténèbres qui étaient là, rappel du jugement de Dieu contre le péché. Et ces ténèbres était présente au-dessus de Jésus pendant 3 heures. Jésus subissait le jugement que nous méritions. Ce n'était pas ses péchés qu'il portait, mais les nôtres. Les péchés et leur punition, le jugement de Dieu contre ses péchés. Au-delà des souffrances physiques et de la mort par crucifixion, il y avait une souffrance invisible et spirituel. Jésus plongé dans les ténèbres. Jésus qui porta sur lui ses péchés, les péchés. Mais à la fin, quand il expira, Jésus dit, tout est accompli, tout est fait, il n'y a plus de peine à purger, ni de souffrance à expérimenter. Jésus a pu mourir et remettre son esprit à son Père, parce que son travail de porter les péchés était terminé. Le juste est mort pour les injustes, et il est mort juste. Sachons-le, mes amis, il n'y a plus aucun sacrifice à offrir. aucune réparation à payer à Dieu pour nos fautes. Nous ne devons rien ajouter, nous ne pouvons rien ajouter. Ce que Jésus a fait était parfait et complet. Il n'y a donc rien à ajouter. Quel privilège de contempler, de considérer cela lorsque nous pensons à cette prière de Jésus. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Imaginez que le médecin qui a été atteint du coronavirus en essayant de traiter les patients avait, au lieu de mourir, créé des anticorps dans son corps et que ces anticorps dans son sang seraient efficaces pour débarrasser n'importe qui de la maladie. S'il offrait son sang immunisé comme un remède efficace, il n'y aurait qu'une chose à faire. Ceux qui y croiraient se précipiteraient pour recevoir de son sang. Ceux qui n'y croyaient pas, qui ne croiraient pas, qui compteraient sur leur propre force, ne recevraient pas le remède. Juste pour être clair, c'est une illustration que j'ai imaginée là, et pas un remède miracle que j'annonce. La vraie bonne nouvelle est que le pardon pour lequel Jésus a donné sa vie est réellement disponible si nous le demandons. Père, pardonne-moi d'avoir fait le mal. Donne-moi à travers Jésus-Christ la vie éternelle avec toi. Règne en moi, règne sur ma vie. C'est ce que nous devons faire, cette démarche-là, pour recevoir les bienfaits du sang de Christ, de la mort de Christ. Quand nous sommes réunis en Église, nous aimons prendre part à la Sainte Cène, le pain et le vin. Nous allons attendre la fin du confinement pour pouvoir célébrer cela ensemble. Ce soir du Vendredi Saint, souvenons-nous de ce que le sang de Jésus a coulé pour nous. Son corps a été donné à la mort pour nous, et son esprit est allé au Père. N'oublions pas le dimanche de Pâques, où le corps de Jésus est réapparu en pleine vie. Ce vendredi n'est pas la fin de l'histoire. Mais dans le calme d'un moment chez nous, à la maison, offrons à Dieu nos prières de reconnaissance pour le don précieux de son Fils.